Le rendez-vous du libraire. Le rendez-vous du libraire, une émission proposée par la librairie de la Trinité et animée par Agathe de Grey.
Chères auditrices, chers auditeurs, nous nous retrouvons cette semaine encore pour deviser des dernières sorties littéraires qui vous attendent dans notre librairie. Une rivière de diamants qui vole la voix d'un président, une coiffeuse qui se surprend à lire Proust, c'est le programme que je vous propose aujourd'hui.
Le rendez-vous du libraire. Les nouveautés de la semaine.
Petit bijou perdu au milieu des merveilles de la rentrée littéraire, le nouveau roman de Pauline Dreyfus vous a peut-être échappé, malgré tout son brillant. Le président se tait, paru le 17 août chez Grasset, prend en effet comme prétexte, au sens premier du terme, l'affaire des diamants Bokassa, scandale de la fin des années 70 qui vit le président français accusé d'avoir reçu des joyaux de la part d'un dictateur africain. La surprise tint au moins autant, sinon plus, dans la réaction du président que dans l'affaire proprement dite. Il refusa de s'expliquer et se mura dans ce silence 7 semaines durant. Ici, le scandale se fait décor, trame, scène même. On ne peut ignorer tout ce que les romans de Pauline Dreyfus ont de théâtral. Son précédent et déjà excellent roman, Le Déjeuner des Barricades, se faisait huis clos en mai 68, vaudeville dans les salons dorés de l'hôtel Meurice, où une foule de personnages attendait avec angoisse le nouveau lauréat du prix Nimier, un Patrick Modiano encore inconnu. À l'instar du Déjeuner des Barricades, le président se tait propose une comédie sociale qui met en scène 49 jours d'interrogation, 7 semaines durant lesquelles le silence présidentiel devient terreau, celui de la parole de tous les autres. Le président se tait, mais tout le monde parle, commente, interprète, condamne et défend. Pour combler ce mutisme assourdissant, Pauline Dreyfus anime une galerie de personnages hauts en couleur, bouleversés, chacun à leur façon, par ce drame politique. Une immigrée portugaise candide, une journaliste espérant la gloire, un chômeur, pilier de bar, ou encore une ancienne conquête du président. Tous s'agitent, comme on bruit parfois pour briser un silencieux malaise. Passée maîtresse dans l'art des petites et grandes scènes politiques, Pauline Dreyfus nous emporte dans cette ribambelle de chapitres drôles et brillants, comme autant de diamants montés en rivière. On rit, on médite, on écoute, on conteste, c'est toute une façon de faire politique ensemble qui se dévoile dans ce roman. Découvrez vous aussi ce théâtre humain drôle et tragique à la fois, où la candeur côtoie le stratagème, où le ridicule frôle le pathétique et où l'habileté fréquente la maladresse. Rien n'égale le talent de Pauline Dreyfus pour ces romans où les petites histoires se brodent sur la trame, même silencieuse, de la grande histoire. Vous étiez à la recherche d'une fiction pleine de sagesse, peinte avec les couleurs du réel, d'une galerie de personnages attachants et complexes. Bref, vous vouliez un livre qui vous fasse rire et penser. Emparez-vous sans tarder de ce joyau de la rentrée littéraire, dont le style ciselé et incisif ne saurait être plus justement mesuré qu'en Cara. Les romans de notre sélection du jour ont un schéma en partage. Tous deux explorent à leur façon des relations entre le célèbre et l'anonyme, le symbole et les petites gens. La foule du président se tait s'échine à donner du sens au silence de Valérie Giscard d'Estaing, et dans le second ouvrage de notre sélection, de Stéphane Carlier, une autre anonyme se trouve liée à une figure historique de la littérature. Clara, coiffeuse à Cindy Coiffure, tombe par hasard sur un livre oublié par un client de passage. Un livre intrigant, un livre compliqué, un livre de Marcel Proust.
Le rendez-vous du libraire. Les nouveautés de la semaine.
Clara lit Proust, de Stéphane Carlier, paru le 1er septembre chez Gallimard, vous invite à un voyage inédit. Une aventure littéraire à nul autre pareil. Vaguement déçue de son existence, que d'autres lui envient pourtant, la modeste et discrète Clara se désennuie en détaillant ce qui l'entoure. Le salon de coiffure, sa patronne, ses collègues, ses clients. Les scénettes s'enchaînent, dans une routine qui semble lentement désespérer la jeune coiffeuse, jusqu'au jour où elle fait la rencontre d'un ouvrage. Un bête livre de poche, abandonné là par son ancien propriétaire. Clara l'oublie, ce petit livre. Elle le range, retombe dessus, l'emporte. Il ne sort jamais vraiment de son esprit. Et puis un jour, au milieu de sa vie où tout va si bien que Clara déprime, cette affaire de livre perdu lui revient. Et c'est là que tout commence. Clara lit Proust. Plus exactement, Clara commence à la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Pour le lecteur également, tout change. D'abord presque incongru, cette rencontre, ce coup de foudre progressif entre Clara et l'ouvrage prend sens. Clara découvre la vie véritablement vécue, celle de la littérature, et son regard s'affûte. Les scénettes du salon de coiffure lui apparaissent sous un jour nouveau, sans véritablement avoir changé par elle-même. C'est normal. En réalité, c'est le regard de Clara qui change. Bouleversée par ce livre complexe auquel elle s'accroche avec une passion qui la surprend elle-même, Clara lit Proust et donc Clara change. Fini la vie parfaite, fini l'ennui, fini la solitude. Clara lit Proust et donc Clara revit. Clara revit et le lecteur l'envie. Le lecteur veut lire Proust. Ce roman doux, d'apparence légère et modeste, est beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît au premier regard. Chapitre comme autant de scènes brèves, style soigné et discret, mais résolument drôle, ce petit ouvrage en cache un autre entre ses pages. Et sa lecture n'est pas anodine. Clara nous emporte avec elle. Sa rencontre avec Proust est de celle qui bouscule irrémédiablement l'existence. Et il n'est pas certain que ce roman ne vous changera pas vous aussi, cher lecteur. C'est une lecture qui convoque Proust, qui commande de faire une place à l'art dans sa vie, qui bouleverse le lecteur aussi. Comme Clara, on sort de notre lecture légèrement différent, avec l'envie de vivre Proust comme elle, chevillée au corps. J'ai dévoré ce livre comme Clara dévore Proust, parce que cette histoire, d'apparence anodine, est dotée d'une force folle, celle du témoignage d'une vie qui chavire, soufflée par la puissance de l'art. Il ne manquait rien à Clara, ou plutôt, il lui manquait tout, car comme le dit Marcel, la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie, par conséquent pleinement vécue, c'est la littérature. Cette vie qui, en un sens, habite à chaque instant, chez tous les hommes, aussi bien que chez l'artiste, mais il ne la voit pas, parce qu'il ne cherche pas à l'éclaircir. Stéphane Carlier l'éclaircit. Clara l'éclaircit. À nous maintenant de nous consacrer à l'art. Lisez ce roman comme une introduction, une invitation à changer de regard, à changer de perception. Lisez Clara lit Proust.
Le rendez-vous du libraire. Le coup de cœur de la semaine.
Il nous paraissait inconcevable de vous quitter ainsi, de vous vanter le bouleversement d'une rencontre avec l'art et de vous abandonner avec cette idée. Et comme nous avons été loin d'être insensibles au roman de Stéphane Carlier et que j'ai envié Clara de sa rencontre soudaine avec Marcel Proust, je vous propose comme lecture offerte un extrait du Temps retrouvé, dernier tome de la recherche. En roulant les tristes pensées que je disais il y a un instant, j'étais entrée dans la cour de l'hôtel de Guermantes, et dans ma distraction, je n'avais pas vu une voiture qui s'avançait. Au cri du Wattman, je n'eus que le temps de me ranger vivement de côté, et je reculai assez pour buter, malgré moi, contre des pavés assez mal équarris derrière lesquels était une remise. Mais au moment où, me remettant d'aplomb, je posais mon pied sur un pavé qui était un peu moins élevé que le précédent, tout mon découragement s'évanouit. Devant la même félicité qu'à diverses époques de ma vie m'avait donné la vue d'arbres que j'avais cru reconnaître dans une promenade en voiture autour de Balbec. La vue des clochers de Martinville, la saveur d'une madeleine trempée dans une infusion, tant d'autres sensations dont j'ai parlé et que les dernières œuvres de Vinteuil m'avaient paru synthétiser. Comme au moment où je goûtais la madeleine, toute inquiétude sur l'avenir, tout doute intellectuel était dissipé. La félicité que je venais d'éprouver était bien en effet la même que celle que j'avais éprouvée en mangeant la madeleine, et dont j'avais alors ajourné de rechercher les causes profondes. La différence, purement matérielle, était dans les images évoquées. Un azur profond enivrait mes yeux, des impressions de fraîcheur, d'éblouissantes lumières tournoyaient près de moi, et dans mon désir de les saisir, sans oser plus bouger que quand je goûtais la saveur de la madeleine en tâchant de faire parvenir jusqu'à moi ce qu'elle me rappelait, je restais, quitte à faire rire la foule innombrable des Wattmen, à tituber comme j'avais fait tout à l'heure, un pied sur le pavé plus élevé, l'autre pied sur le pavé le plus bas. Chaque fois que je refaisais rien que matériellement ce même pas, il me restait inutile, mais si je réussissais, oubliant la matinée guermante, à retrouver ce que j'avais senti en posant ainsi mes pieds, de nouveau, la vision, éblouissante et indistincte, me frôlait, comme si elle m'avait dit « Saisis-moi au passage si tu en as la force, et tâche à résoudre l'énigme du bonheur que je te propose. » Et c'est ainsi que je vous quitte. Retrouvez-nous en boutique à la librairie de la Trinité de Toulouse pour découvrir les romans que je vous ai présentés, Le Président se tait et Clara Liproust, ou d'autres, que nous serons ravis de vous faire découvrir.